intime. J'ai voulu prendre une courbe trop agressivement pour avoir les sensations, là, puis ma roue a glissé. Mais bon, ça a raflé ma peau, puis a raflé mon orgueil un petit peu. C'est bon pour moi. La Bible dit, avant de m'être humilié, je m'égarais, maintenant je suis ta voix. Bon, ce matin, on va poursuivre parce que notre frère Robert a commencé une nouvelle série avec vous il y a 2 semaines. C'est la nouvelle série qu'on va voir cet automne aller jusqu'aux fêtes. On a terminé pour la série de l'espérance, mais on n'oublie pas l'espérance parce que c'est primordial à notre foi. Ça fait partie intégrante de notre foi. Et nous sommes l'Église de l'espérance. Amen. Ah oui, j'espère que la série sur l'espérance a fait pour vous ce que ça a fait pour moi. Ça a un impact permanent, je dirais, dans ma vie, dans ma façon de voir la vie. Et puis, j'espère que c'est la même chose pour vous. Si vous avez raté quelques enseignements, heureusement que grâce à Jonathan et Maurice, on les a sur le site. Vous pouvez aller les prendre sur le site. Donc, la nouvelle série s'appelle « Choisir la reconnaissance ». Et je tiens à remercier Robert pour l'idée qu'il a eue de cette série sur la reconnaissance. Et je rends grâce aussi pour l'auteur du volume « Choisir la reconnaissance » de Nancy Lee DeMoss. Pour ceux qui, peut-être, ont été là pour la série « Choisir la réconciliation », elle avait écrit un livre que notre sœur Élise a partagé avec beaucoup de gens. Là, elle a écrit d'autres livres, puis ça a été une source d'inspiration pour nous. Donc, ce livre-là fournit plusieurs des notions que nous allons voir dans cet ensemble de messages. Puis, qui dit nouvelle série dit nouveau quoi? Verset thème. Donc, le verset thème que je vous propose à ce qu'on mémorise, qu'on considère activement tous les jours, c'est tiré d'Éphésiens 5:20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans la version du Semeur, c'est marqué à tout moment et pour toutes choses. Vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça, c'est notre verset thème pour la série. Puis, j'aimerais approfondir avec vous ce matin les fondements, examiner sur quoi se repose cette notion de la reconnaissance. Vous serez, je pense, d'accord avec moi que si les fondations d'une maison ne sont pas solides, l'édifice risque de tomber éventuellement. Quelqu'un me disait vendredi, il se fait construire, puis il fallait couler les fondations, puis attendre 30 jours ou 40 jours pour que ça se solidifie avant de déposer la maison. C'est une maison préfab, là. Il faut que la fondation supporte le poids. Donc, aussi, pour ceux qui me connaissent, j'aime vous donner le punch avant. Donc, le punch du message ce matin, c'est cette phrase-là, la phrase sommaire. « La reconnaissance glorifie Dieu et devrait donc remplir la vie de ses enfants, car elle constitue la réponse sincère d'un cœur touché par sa bonté. » Fait que c'est ça le punch pour le message ce matin. En passant, je suis conscient que l'arrière-plan n'est pas très bien choisi. Là, je vais changer ça pour les prochaines fois. Bon. On vient de célébrer l'action de grâce, hein, n'est-ce pas? Jean en fait mention ce matin. Fête dont le sens devient, je dirais, de plus en plus flou pour les Québécois. Et pourquoi? Parce que, justement, ils en ignorent les fondements de ce congé. La notion d'une fête de reconnaissance remonte au début de la nation d'Israël. Une fête de la moisson avait été prescrite par Dieu dans l'Ancien Testament. On retrouve également des fêtes de la moisson depuis l'histoire lointaine des sociétés paysannes européennes. Et puis, bien que fêté depuis déjà des siècles au Canada, le congé férié appelé l'Action de grâce a été inauguré en 1957 par une proclamation du Parlement canadien créant, et je cite, « une journée pour rendre grâce au Dieu Tout-Puissant des récoltes abondantes dont jouit le Canada ». Saviez-vous ça? 1957, c'est avec cette phrase-là que le Parlement canadien proclamait une fête, un congé férié. Mais c'est quoi au juste l'action de grâce? Et que signifie la reconnaissance vraiment? Et pourquoi choisir la reconnaissance? Bien, si on revient à notre verset thème de tantôt, « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ », Éphésiens 5:20. Robert vous a expliqué, pour ceux qui étaient là, que l'expression « rendez grâce » ou qui est aussi traduit comme « remercier » dans le Nouveau Testament, bien, c'est traduit du mot grec « eucharisteo », qui est tiré de deux mots, « eux » qui veut dire « bon » et « charisteo » qui veut dire « grâce » ou « cadeau » ou « don ». Donc, « rendez grâce » ou « remercier » signifie de reconnaître que qu'est-ce qu'on a est une grâce, un cadeau, une faveur. Et donc, on reconnaît. Et donc, c'est là que vient la notion de reconnaissance. Donc, on est reconnaissant. On dit qu'on est reconnaissant. Bien, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est reconnaissant? C'est qu'on reconnaît que ce qu'on a ou ce qu'on a reçu, bien, c'est quelque chose qui nous a été donné. Que c'est un cadeau, c'est un don, c'est une grâce, c'est une bonne grâce. Eucharisteo. Et d'admettre que ce cadeau-là, ce don-là, me provient d'une source en dehors de moi-même. Fait que le premier point, ce que j'aimerais mentionner ce matin, c'est que tout dans ma vie, tout dans ta vie, est une grâce qui me vient de Dieu. Tout, tout, tout. Tout est une grâce. Paul demande aux chrétiens en Corinthe, qu'as-tu que tu n'aies reçu ou qui ne t'ait été donné? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Lorsque Paul prêche à la foule à Athènes, il déclara que c'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, acte 17. Pourquoi la reconnaissance n'a pas beaucoup de sens pour les gens d'aujourd'hui dans notre société québécoise? Pourquoi voit-on de moins en moins cette valeur dans notre société? Pourquoi le congé de l'action de grâce semble nébuleux pour les nouvelles générations? Parce qu'on a évacué Dieu. On a évacué Dieu de nos vies et de notre société. Et c'est pour ça que la notion de reconnaissance a perdu presque tout son sens. Pourtant, il est reconnu, comme disait Robert il y a deux semaines, par les psychologues, que le fait d'être reconnaissant a des effets positifs sur notre santé physique et mentale. Et c'est prouvé ça, le fait d'être reconnaissant. Et on dit aux gens, pratiquez la reconnaissance. C'est bon pour vous. Pratiquez la reconnaissance, c'est un des facteurs qui fait que vous allez mener une longue vie. Alors, on assiste à un phénomène vraiment cocasse. Les gens qui ne croient pas en un Dieu créateur, mais qui pratiquent une forme de reconnaissance envers l'univers. Mais cet univers, s'il est le produit d'un cataclysme tout à fait aléatoire et impersonnel, n'a aucune volonté. Il ne peut donc pas te vouloir le bien ou t'accorder des dons, des cadeaux quelconques. Pourquoi donc perdre ton temps à être reconnaissant? Ou encore, on voit les gens remercier leurs parents, surtout leur mère, de leur avoir donné la vie. Hein? On entend souvent ça. Je remercie ma mère, elle m'a donné la vie. Mais qui a donné la vie à leur mère et à leur grand-mère, et ainsi de suite jusqu'aux premiers ancêtres? Si ces premiers ancêtres sont eux-mêmes le fruit d'un processus de mutation et de sélection au hasard, bien, ils n'ont pas de mérite non plus. Non, les amis, écoutez, le chaos ne peut absolument pas produire l'ordre et la beauté qui nous entourent. Le problème à la base, c'est qu'on vous a vendu la notion que l'univers a commencé avec un Big Bang. Et je lisais justement hier dans une revue qu'avec le nouveau télescope James Webb, on est capable maintenant de voir encore bien plus loin hein, dans l'univers qu'avant. Hein, je ne sais pas si vous êtes au courant, James Webb, c'est un télescope qu'ils ont lancé cette année, début d'année, dans l'espace. Fait que là, on n'a plus l'interférence de l'atmosphère, des couches de l'atmosphère. Donc, ce microscope-là peut voir beaucoup, beaucoup plus loin. Télescope, pardon, peut voir beaucoup plus loin. Mais ce qu'ils se sont rendus compte, ça crée un problème pour le Big Bang. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert des galaxies beaucoup plus grandes et beaucoup plus formées qui auraient dû être dans les confins là, lointains de l'univers. Ça ne fit pas avec la théorie du Big Bang. Ces galaxies-là ne devraient pas exister, ne devraient pas être aussi bien organisées. Mais on nous a vendu la notion du Big Bang et tout le monde aujourd'hui ou presque croit à ça. Mais je vous pose la question, est-ce que le chaos peut produire l'ordre et la beauté? Est-ce qu'une explosion? Tout ce qui nous entoure, tout ce que la nature nous montre, c'est que ce n'est pas le cas. Les systèmes complexes tels l'œil humain sont le produit d'une intelligence, d'une ingénierie, d'une puissance époustouflante. Écoutez, on reconnaît facilement que tous les systèmes complexes et fonctionnels qui existent dans ce qui nous entoure, dans les produits qui nous entourent, mettons, tu vas prendre un drone, on reconnaît facilement que ça a pris de l'intelligence et la force pour produire ce système complexe et fonctionnel. Les archéologues, comme je vous ai déjà mentionné, lorsqu'ils découvrent une structure, vont déterminer si la structure est naturelle ou d'origine humaine, comment? Par le fait qu'elle présente une organisation, une structure, et que cette structure-là pointe vers une fonction, par exemple une maison, ou un temple, ou peu importe. Mais ils vont dire, cette structure-là est de toute évidence pas naturelle. Pourquoi? Parce qu'elle a une organisation, et on voit que ça a pris une force, et les angles, tout ça, ce n'est pas le produit de quelque chose de naturel. Mais alors qu'on constate des systèmes infiniment plus complexes dans le corps humain, dans les insectes, dans les mammifères, pourquoi refuser de reconnaître qu'il doit y avoir un grand ingénieur derrière et que tout cela n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas le produit d'un chaos, ce n'est pas le produit de la nature toute seule, mais le produit d'un être infiniment plus intelligent et puissant que nous. Et si on pousse encore plus loin, les lois parfaites, invisibles et immuables qui régissent notre univers, par exemple la loi de la gravité, pour en mentionner qu'une seule, ne sont pas le fruit d'une explosion, ne peuvent pas être le fruit du matériel. Le matériel ne produit pas les lois, le matériel répond aux lois. Donc, les lois sont là quand? Avant. Le matériel, tout ce qui est matériel, répond aux lois de la nature. Donc, les lois, qui les a créées? Dieu, le souverain créateur de l'univers, des lois invisibles et immuables de la nature, de la beauté, de l'ordre, de l'intelligence, est le seul responsable de tout ce dont toi et moi nous jouissons. Elle est là le fondement de la reconnaissance. Si tel n'est pas le cas, la reconnaissance n'a aucun sens. C'est un non-sens. Mais tout dans ma vie, dans ta vie, est un cadeau de Dieu. Il arrive, je suis sûr, à toi comme à moi, d'oublier que tout, absolument tout, est un don, une grâce d'un Dieu bienveillant et plein d'amour pour ses créatures. Ou encore, on arrive à se convaincre que Dieu est là, mais on a des attentes envers lui, voire même des exigences, comme s'il te doit quelque chose. Les gens vont souvent se plaindre de la température en rajoutant qu'ils méritent mieux que ça. Moi, quand on me dit ça, je réponds, ah oui? Hein? Est-ce que vous entendez ça, celle-là? On l'entend souvent, hein? Ah, la température, on mérite mieux que ça. Ah oui? Ah, comment ça? Vous méritez quoi au juste? On mérite quoi au juste? Ah, pourquoi? Parce que tu mènes une bonne vie? Ça, on l'entend souvent, hein? Parce que tu mènes une bonne vie, Dieu te doit quelque chose. On était en voyage justement en Portugal, puis après avoir joui d'une superbe journée ensoleillée, beau paysage, on arrive à un bel hôtel magnifique. Moi, j'arrive quelques minutes avant. Une autre dame sur le voyage arrive en courant roulant. Elle dit, hey, qu'on mène des bonnes vies. J'ai répliqué, ben la Bible dit que Dieu fait briller son soleil sur les méchants et les bons. Elle a fait le saut. Elle a dit, « Ouais, elle dit, t'as bien appris tes leçons, toi? » J'ai dit, « Oui, la grâce de Dieu est disponible pour tous. » Ouais, elle ne s'attendait pas à celle-là. Je suis en train de lire le livre de Job actuellement, et la philosophie de ses amis et de Satan est celle-ci. Mène une bonne vie, et Dieu n'aura pas le choix de te bénir. Ça, c'est la philosophie. Autrement dit, Dieu ne mérite pas qu'on l'aime pour qui il est, qu'on le serve pour qui il est, mais pour qu'est-ce qu'il peut t'apporter. Et là, on sert Dieu pour des raisons ultérieures. Ce n'est pas d'un cœur sincère. Je mets mon cash, puis la machine me sort quelque chose que je veux. Comprenez? C'est une philosophie satanique. Et Dieu condamne cette attitude à la fin du livre et soutient Job, qui, malgré le fait qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, restait attaché à la personne de Dieu pareil. J'aimerais vous inviter à tourner dans vos Bibles, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1. Épître aux Romains, chapitre 1. Puis, je vais lire dans la version sommaire. Romains 1, à partir du verset 18. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes. Pourquoi? Qui ne l'honorent pas et ne le respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient dans ses œuvres. Quand on y réfléchit, ils n'ont donc aucune excuse. Car alors qu'ils connaissaient Dieu, ils ont refusé de lui rendre honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur quoi? Leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'urgence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent les idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les porte à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui, lui, est loué éternellement. Amen. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes de même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritaient leurs égarements. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Ils accumulent toutes sortes d'injustices, de méchanceté, d'envie, de vice. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelle, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence, de loyauté, insensibles, impitoyables, ça va mal. Ils connaissent très bien la sentence de Dieu qui déclare passible de mort ceux qui agissent ainsi. Malgré cela, non seulement ils commettent de tels actes, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Toi donc, toi qui condamnes ces comportements, Tu n'as aucune excuse, car en jugeant les autres, toi, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui les juges, tu te conduis comme eux. Prions. Ce matin, Père Céleste, souverain Créateur du ciel et de la terre, on vient devant toi, Père. On a besoin d'entendre ta voix. On veut écarter toute autre voix que la tienne, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, et nous éclairer par ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Saint-Esprit, on t'invite maintenant. Venez frayer un chemin dans nos cœurs et nous éclairer, nous révéler la pensée intime du Père. Oui, Seigneur Jésus, appelle-nous à ta croix. Appelle-nous par notre nom ce matin, comme on a prié, comme on a chanté. Pour ta gloire, Seigneur. Amen. Le message de l'Évangile que Paul expose dans ce chef-d'œuvre théologique qu'on appelle l'Épître aux Romains débute avec le fait que nous sommes tous coupables. Coupables, pourquoi? De ne pas avoir honoré Dieu ni avoir fait preuve de reconnaissance, de gratitude à son égard pour toutes ses nombreuses bontés déversées sur nous. Souvent, j'entends les gens dire aussi « Et qu'on est chanceux! Hein? » Il fait beau, et qu'on est chanceux. Ou on est en bonne santé, et qu'on est chanceux. Ou on a un bon temps en famille, et qu'on est chanceux. Mais dire que tu es chanceux, ça veut dire quoi au juste? Tu reconnais que tu as reçu quelque chose que peut-être tu ne méritais pas, ou que les autres n'ont pas eu le privilège de recevoir. Mais être chanceux, ça veut dire quoi au juste? La chance, c'est impersonnel. Froid, vide de sens. Comment la chance peut-elle te sourire si elle n'a ni bouche, ni cervelle, ni vie? Pourquoi dans ton cœur refuser de reconnaître que c'est plutôt Dieu qui t'accorde telle ou telle ou telle bonté? C'est ce que Paul affirme ici. C'est que nous, les êtres humains, nous refusons de reconnaître Dieu comme l'auteur de toute bonne chose, la raison étant fort simple. Nous ne voulons pas avoir à nous soumettre à autre volonté que la nôtre. C'est comme si nous disons à Dieu, « Non, on ne veut rien savoir de ce que tu veux de nos vies. » Fait qu'on aime mieux prétendre que tu n'existes pas. Et là, Paul dit, « Vous savez que Dieu existe. Vous le savez dans le fin fond de votre cœur que Dieu existe. » Mais vous retenez captive cette vérité-là. C'est comme prendre quelqu'un en otage, puis le mettre en prison. C'est ce que Paul dit que nous, les êtres humains, on fait. On fait ça. On sait que Dieu existe, qu'il est le Créateur. On le voit dans ses œuvres. C'est impossible que ce soit par la chance, tous ces systèmes-là complexes, intelligents, formidables. Mais on prend ça, puis on l'amène en otage, puis on met en prison cette vérité-là. Je ne veux rien savoir de ça. Je mets ça sous clé et je jette la clé. Et nous sommes tous coupables de ça. Paul dit, nous sommes tous inexcusables parce que, ayant connu Dieu, nous ne l'avons pas glorifié comme il le mérite et nous n'avons pas été quoi? Reconnaissants. Alors, après ça, Paul dresse le tableau de la spirale vers les enfers de l'humanité. Pourquoi ça va mal dans le monde? Pourquoi il y a tellement de mensonges, de calomnies, de conflits, de toutes sortes de perversités? Pourquoi ça va mal? Pourquoi les gens sont mal en point? Pourquoi les gens se questionnent sur leur identité de plus en plus? Pourquoi il y a tant de conflits? Pourquoi? Ça part d'une chose. Au départ, le manque de reconnaissance et d'honneur pour le Dieu créateur. Tout commence là. C'est pourquoi la reconnaissance revêt d'une grande importance dans ma vie, dans ta vie, la reconnaissance et l'honneur qui est dû à Dieu. Rendez grâce au Père. Tournez avec moi dans Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1. On est en train de voir pourquoi choisir la reconnaissance. Et c'est parce que toute chose dans ma vie est une grâce, est un don, est un cadeau qui me vient de Dieu, du Dieu souverain, du Dieu créateur de l'univers. Regardez Colossiens, chapitre 1, au verset 12. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Colossiens, chapitre 1, verset 12. On va lire rapidement encore. Rendez grâce, soyez reconnaissants, exprimez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, comme on disait tantôt, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils, qu'il a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Et comment ne pas être reconnaissant devant un tel portrait de grâce? Un tel portrait de grâce. Ce que Paul affirme dans Romains et ici, c'est que nous, les êtres humains, nous refusons de reconnaître Dieu comme l'auteur de toutes bonnes choses parce que nous ne voulons pas nous soumettre à sa volonté. Nous voulons faire notre propre volonté. Par contre, lorsque les choses vont mal, qu'est-ce qu'on entend? « Oh, moi, je ne peux pas croire que Dieu existe parce que ça va tellement mal dans le monde. » Fait que là, on rejette la faute sur Dieu de tous les maux, mais tous les biens, bah, ça, c'est normal. Mais la bonté de Dieu, écoutez, va encore beaucoup plus loin que de pourvoir à ton souffle, à ta vie, à tes nombreux bienfaits pour lesquels tu ne reconnais pas sa bonté. Sa bonté va encore beaucoup plus loin que ça, parce que sa bonté te pousse à te repentir, et parce qu'il a envoyé Jésus pour prendre sur lui tes fautes, mes fautes, et surtout la plus grande faute de s'être rebellé contre lui. De ne pas vouloir rien savoir de lui, d'avoir vécu ta vie comme bon te semblait, en jouissant de tous ses dons, mais en l'ignorant totalement alors qu'il t'a tout donné. Et Dieu, malgré ton passé méprisant à son égard, veut t'amener à le connaître. Il fait un pas de plus en envoyant Jésus. Il n'avait pas besoin de faire ça. Il a envoyé Jésus et Jésus a bien voulu venir pour te montrer qui est Dieu. Et pour te montrer que Dieu veut réconcilier cette relation avec toi. Que lui, de son côté, tout est fait. Jésus meurt à la croix, il ressuscite. Pourquoi? Pour tes fautes à toi. Et c'est ce qu'on vient de lire ici. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a arraché de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, tous ceux qu'il a arrachés au pouvoir des ténèbres. Parce que quand on s'éloigne de Dieu, qui est lumière, on se retrouve dans les ténèbres. La dernière série, comme j'ai dit, traitait de l'espérance. Et on le voit ici, c'est l'héritage des saints dans la lumière. C'est quelque chose qui est à venir. C'est quelque chose qui nous attend. C'est tous ceux qui se détournent de leur mauvaise voie, qui se tournent vers Jésus-Christ, qui l'acceptent comme Sauveur et Seigneur, bien, ils ont un héritage, une espérance dans le ciel. Paul dit dans 2 Thessaloniciens 2:16, « Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu, notre Père, nous ont témoigné tant d'amour et par grâce nous ont donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance. » Je suis un peu en retard dans mes diapos, excusez. Voilà, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu, notre Père, nous ont témoigné tant d'amour et par grâce nous ont donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance. Amen. Comment ne pas être reconnaissant ce matin? Tout est un don de Dieu. Ta vie, ta capacité, tes avoirs, tes plaisirs, petits et grands, tes amitiés, ta famille, ton travail, ta santé. Et si tu es uni au Christ, ton avenir. Amen. Le problème, c'est qu'on se compare souvent aux autres. Et on se compare souvent avec les gens qui ont plus que nous sur un plan humain. Jamais avec ceux qui ont moins que nous. Toujours avec ceux qui ont plus que nous. Et on se dit, moi, j'ai pas ça, comment ça se fait? Mais on oublie tout ce qu'on a. Jacques dit dans 1:17, « Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement ni ombre due à des variations. Dieu t'a comblé de bienfaits. » Arrête de te comparer avec les autres. Regarde tout ce que Dieu t'a donné. C'est inimaginable. Tu ne peux même pas commencer à comptabiliser tout ce que Dieu t'a donné. Et si tu commences, tu vas voir, la liste en est très longue. Dieu est derrière tout. Tout est un don. Et c'est ça la fondation de la reconnaissance. Sans cette fondation-là, la reconnaissance n'a aucun sens. Comprenez l'idée? Il faut accepter cette vérité-là fondamentale dans ta vie, que Dieu est la source de toute bonne chose dans ta vie. Et que Dieu veut ton bien. Il est bienveillant, rempli de bonté. Et même quand ça semble mal aller, Dieu veut ton bien pareil. Et si tu acceptes ça, ça devrait te conduire naturellement à la reconnaissance. Suivez? Nous lui devons au moins la reconnaissance. C'est le minimum, la reconnaissance. Reconnaître simplement que qu'est-ce que tu as, c'est un cadeau. Eucharisto. Toutes les bonnes choses dont tu jouis, l'amitié, la famille, la vie, la santé, n'importe quoi. Une église. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ce qui veut dire que Dieu, il n'y a pas des sauts d'humeur qu'un jour il veut du bien puis l'autre jour il veut du mal. Ça, c'est un mensonge. Dieu est toujours, toujours, toujours bien disposé envers toi. Toujours bienveillant. Malheureusement, il y a un ennemi qui lui fait du mal et qui met ça sur le dos de Dieu. Regarde ce que Dieu t'a fait là. Regarde, il t'a enlevé ton conjoint et ta conjointe. Regarde ce que Dieu a fait, il t'a enlevé ta santé. Regarde ce que Dieu a fait, il t'a enlevé ton emploi. Reconnaître, c'est le minimum. Reconnaître que tout est un cadeau fait plaisir à Dieu. Hein? Ça fait plaisir à Dieu. C'est normal. Toi, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, le moindre chose, c'est qu'il te remercie. Hein? Mais comment négliger de rendre grâce à Dieu pour tout ce que tu as? Comment? C'est une grave faute. Et pour laquelle Jésus est mort à la croix pour ça. Il veut même prendre cette faute-là sur lui pour te donner le pardon et la réconciliation. Dieu aime la reconnaissance, ça lui fait plaisir. Dans Luc 17, on voit le récit de Jésus qui guérit 10 hommes lépreux. Hein? Ces hommes-là qui souffraient de la lèpre, c'est une maladie débilitante qui était comme une sentence de mort à l'époque. Ils étaient exclus de leur famille, de leur communauté, exposés au mépris, au dégoût des autres et souvent réduits à mendier. C'était comme vivre un enfer sur terre, des morts vivants. Là, Jésus passe près de leur village. Ils viennent à sa rencontre en le suppliant à haute voix de les guérir. « Jésus, aie pitié de nous. » Dans sa grande bonté et compassion, Jésus s'en va les guérir. Quel pourcentage sont revenus le remercier? 10%. Jésus demande, hein? C'est intéressant quand on lit ça, parce que Jésus s'arrête et il pose la question. Hey, les gars, combien j'ai guéri de lépreux? Est-ce qu'ils savaient? Ben oui, ils savaient. Ils posent la question pour nous conscientiser. Hey, les gars, combien de lépreux j'ai guéri? 10? Ben oui, c'est bien 10. C'est bien 10, Pierre, oui, oui. Il y en a juste un, puis un étranger en plus qui est revenu pour louer Dieu. C'est ça le cœur de Dieu. Quand je ne le remercie pas, quand je fais preuve d'ingratitude, Dieu est là. Voyons, je t'ai tout donné. La moindre des choses, c'est que tu me remercies. Pas vrai? Mais ce qui me touche encore plus dans cette histoire-là, c'est que Jésus savait d'avance que les autres ne reviendraient pas et il les a guéris tout de même. Wow! La grâce, l'amour, la bienveillance de Dieu. Il savait. Dans quelle catégorie te retrouves-tu? Dans les oublieux ou les reconnaissants? Une question qu'on doit chacun de nous se poser. Fait que pourquoi choisir la reconnaissance? Parce que tout dans ma vie est une grâce qui me vient de Dieu. Deuxième point, pourquoi choisir la reconnaissance? C'est parce que lorsque je choisis la reconnaissance, je ressemble à Jésus. On a vu dans la série sur l'espérance, que le bienfait ultime, je dis bien ultime, dont nous allons jouir dans le ciel, c'est d'être transformés à la ressemblance de Christ. C'est ce que la parole de Dieu nous dit clairement. Car nous le verrons tel qu'il est. Puis je vous avais posé la question à ce moment-là, puis je vous la repose aujourd'hui encore, c'est quoi ton plus grand bien? Dans la vie? Est-ce que c'est ressembler à Jésus? Sinon, tu n'es pas aligné avec Dieu, là. Certains vont dire, mon plus grand bien, c'est d'être sauvé. OK, sauvé de quoi? Sauvé de la mort, sauvé du jugement, parfait. OK, sauvé pourquoi? Juste sauvé, là? Non. Dieu, son salut va beaucoup plus loin que ça. Il veut te sauver de toi-même. Il veut te sauver de toi-même, puis te transformer à l'image de l'être le plus merveilleux de l'univers. Wow! Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, que quand je vous avais parlé de ça, tu sais, quand on est jeune, des fois, on a des idoles, hein? Un rockstar, une idole, leader de band. Puis là, on contemple ce leader de band. Puis là, souvent, les jeunes vont avoir des posters dans leur chambre puis ils veulent être comme cette personne-là parce que pour eux, là, cette personne-là, c'est la plus merveilleuse au monde. Puis je veux être comme elle, je veux être comme lui. Mais la vérité, c'est que la personne la plus merveilleuse au monde, dans l'univers entier, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu aspires vraiment à ressembler à Jésus? Est-ce que c'est là vraiment ton plus grand bien? Sérieusement, c'est quoi le but de ta vie? Si ce n'est pas ressembler à Jésus-Christ, tu n'es pas aligné. Enligne-toi avec le plan de Dieu pour toi. Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Pour ceux qu'il a appelés, il a prédestiné à être quoi? Semblable à son Fils. Dieu t'a sauvé pour que tu deviennes semblable à Jésus-Christ. Et c'est un honneur, c'est une grâce, c'est un privilège extraordinaire. Mais ressembler à Jésus-Christ, bien, Jésus sur la terre, qu'est-ce qu'il dégageait? Une des choses qu'il dégageait, c'était quoi? C'est la reconnaissance. La reconnaissance suintait des parts de Jésus. Partout dans tout ce qu'il faisait. Jésus souvent exprimait sa reconnaissance. On va vous donner des exemples. Et Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, ou puisque vous appartenez à Jésus-Christ. » J'aime bien le sommaire qui dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Oh, wow! Ça veut dire Jésus sur la terre, il a exprimé ça, la valeur de la reconnaissance. Donc c'est la volonté de Dieu pour que toi et moi, on soit comme ça aussi. Pas vrai? OK, des exemples. Rapidement, Luc 10, 21. Jésus exprime sa reconnaissance de pouvoir observer l'œuvre de son Père dans la vie de ses disciples. Au retour des 60 disciples que Jésus avait envoyés en mission, ses disciples voulaient tout raconter à Jésus en revenant. Ils sont effervescents, ils ont vu expérimenter des choses, sont excités, sont survoltés, euphoriques. Et Jésus partage leur joie, mais il leur dit toutefois, attention, un instant, oui, j'ai vu Satan tomber du ciel, mais réjouissez-vous pas que les démons vous sont soumis, réjouissez-vous que votre nom est écrit dans le ciel. Et là, après ça, il s'est marqué, il a eu un transport d'allégresse par le Saint-Esprit, et il s'écrit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. » Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Jésus se réjouit de voir l'œuvre de son Père dans la vie de ses disciples. Jésus exprime sa reconnaissance de pouvoir observer l'œuvre de son Père dans la vie de ses disciples. Est-ce que tu rends grâce à Dieu lorsque tu as le privilège de voir l'œuvre de Dieu dans la vie d'un frère ou d'une sœur? C'est tout un privilège. Et vous savez que les épîtres de Paul, qu'il a écrit, souvent, commencent comment? « Je rends grâce continuellement à Dieu pour vous. » Est-ce que tu rends grâce pour tes frères et sœurs? Est-ce que tu rends grâce pour tes frères et sœurs? Est-ce que tu exprimes ta gratitude? Mais si tu veux ressembler à Jésus, aligne-toi. Jean 11, 41. Devant la tombe de son ami Lazare, Jésus pleure, mais après, il prie son Père. Et puis, Jésus remercie Dieu, son Père, à l'avance. C'est marqué, « Je te loue, Père, parce que je sais que tu m'exauces. » Et il dit, « Je ne dis pas pour moi, je dis pour ceux qui m'écoutent. Je sais que tu m'entends, je te loue. » Je t'exprime ma reconnaissance. Il a cette pleine confiance que Dieu l'écoute et qu'il répondra. Et d'ailleurs, le Seigneur nous a enseigné dans Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Donc, si tu crois que tu l'as déjà reçu, tu peux déjà, quoi? Rendre grâce. Tu peux déjà rendre grâce. Qui sont ceux qui pratiquent ça? Un peu? Ouais. Mais je vous le dis, là, on hésite de faire ça, mais c'est l'enseignement clair de Jésus-Christ. Tu amènes ta requête à Dieu, et après, tu dis « Merci, Père, parce que je sais que tu vas répondre. » Faites ça. Pratiquez ça. Vous allez voir. C'est la foi. C'est le langage de la foi. C'est déclarer la foi en Dieu. Et Jésus le fait ici, devant le tombeau de Lazare. Il dit, je te remercie, Seigneur Dieu, mon Père céleste, parce que je sais que tu m'entends. Es-tu convaincu que Dieu t'entend quand tu pries? Ou tu es plus ou moins certain? Matthieu 15, 32. Avant de manger, Jésus avait l'habitude de rendre grâce, même lorsque, de toute apparence, il allait manquer de nourriture. As-tu déjà fait ça? Ça m'est arrivé cette année, là. Je ne sais pas quelle activité qu'on avait. J'ai dit, hey, mon ami, on va manquer de nourriture, c'est sûr, là. Je ne me rappelle pas. On a rendu grâce, puis à la fin, il y en avait trop. C'est vrai. C'est vrai. Je l'ai vu. C'est arrivé. Mais Jésus rendait grâce, et même si, de toute évidence, les deux poissons, puis les cinq, c'est-tu deux poissons, cinq pains, ou cinq pains, deux poissons? Deux poissons, cinq pains? OK. De toute façon, ce n'était pas assez, hein? Peu importe, là, ce n'était pas assez. Jésus rend grâce pareil. Et souvent, ce geste-là était répété, répété, répété. Comment on sait que Jésus, c'était sa façon d'être, sa façon de... Comment on sait ça? Bien, regardez, Luc 24, 30, Jésus, après sa résurrection, rencontre les deux disciples sur sur la route d'Emmaüs, commence à parler avec eux autres, leur explique les Écritures, tout ça. Et là, ils ne comprennent pas que c'est Jésus, ils ne voient pas Jésus. Ils s'assoient à table, ils insistent que Jésus reste avec eux sans savoir que c'est Jésus. Et là, qu'est-ce que Jésus fait? Rend grâce. Et là, leurs yeux s'ouvrent. Hein? C'est Jésus! Ils ont reconnu Jésus. Pourquoi? Parce qu'il faisait ça. Il était reconnaissant. Alors que les autres gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mangeaient, commençaient à manger tout de suite. J'ai dit que j'allais vous parler un petit peu de notre voyage au Portugal. Dieu s'est servi de ce petit geste-là de façon incroyable. On roulait avec un homme seul qui s'est comme attaché à nous. Puis la première journée qui roule avec nous, on s'arrête pour manger. Puis j'ai dit tel un tel, je ne nommerai pas. J'ai dit, nous, on va rendre grâce pour notre nourriture. J'ai dit, Satan, tu peux te joindre à nous. Ah, il dit, OK, oui, c'est comme les films là, américains, là, Thanksgiving. Là. Il dit, il me donne la main. Fait que là, je commence à prier. Je dis, merci Seigneur pour, hein, on va dire qu'il s'appelle Michel. Je dis, merci Michel, pour Michel, merci pour la nourriture, merci pour le beau voyage que tu nous... Amen. Là, il reste silencieux après. Je dis, ouais, il est bien silencieux. C'est parce que le lendemain, il nous avoue, encore une fois, on est assis à table, j'ai dit, bien, on va encore rendre grâce. Bien, il dit, tu sais, hier, là, il dit, je pensais que c'était une joke. Il dit, je pensais que c'était une joke, c'était pas vrai ce que vous disiez. C'est pour ça que j'ai dit, ah oui, comme les films, puis, tu sais, il se prêtait au jeu, là. Il se prêtait au jeu. Puis là, il a bien vu que c'était vrai, là. Fait que là, le deuxième jour, il commence à me poser des questions. Mais c'est quoi votre affaire? Hein? C'est à quoi vous croyez? Là, j'ai pu expliquer tout l'Évangile à Michel. Ce petit geste-là de reconnaissance. Et c'est par ce geste-là que les disciples ont reconnu Jésus. Donc, ça faisait partie intégrante de sa vie, cette valeur-là de la reconnaissance. Finalement, dans Luc 22, 17 à 19, lors du dernier repas de Pâques avec ses disciples, Jésus rend grâce pour le sacrifice qu'il allait accomplir pour son Père. Hein? Il prend le pain, il prend la coupe, il rend grâce à Dieu. Mais ce n'était pas juste le pain et la coupe, là. Hein? C'était qu'est-ce que ça représentait. Écoutez ce que Mme Nancy DeMoss dit à propos de cela. Durant cette soirée, où il aurait eu toutes les raisons humainement parlant de se préoccuper de lui-même, de s'apitoyer sur son sort et de se laisser aller à l'amertume et au murmure, Jésus a remercié son Père céleste. Ses paroles émanent d'un cœur habité par la reconnaissance. Pourtant, l'enjeu était de taille. Il s'agissait de bien plus qu'une prière rituelle prononcée avant de manger, car le repas tout entier symbolisait l'immense sacrifice qu'il allait accomplir. En remerciant pour le pain et le vin, puis en le partageant avec ses disciples, c'est comme s'il avait dit « Oui, Père, je m'abandonne volontairement à ton plan pour ma vie, peu importe le prix à payer. » Il s'est donné lui-même à Dieu et au monde. Il ne l'a pas fait sous la contrainte, mais il s'est livré avec reconnaissance. Reconnaissance pour le privilège qu'il avait d'obéir son Père et d'achever la mission pour laquelle il avait été envoyé sur terre. Pourquoi choisir la reconnaissance? Parce que Jésus était reconnaissant. Et Jésus ressembler à Jésus, j'espère que pour nous, c'est notre plus grand bien. Est-ce que ton service pour Dieu, même lorsque ça coûte très cher, même lorsque le coût te semble très élevé, te pousse à la reconnaissance? Ou deviens-tu amer à cause du prix élevé à payer? Oui, si tu veux ressembler à Jésus, si tu désires être comme lui, la reconnaissance doit être un mode de vie. Quelque chose qui t'habite, quelque chose qui te caractérise, pour laquelle tu es connu. Il faut cultiver la reconnaissance, parce que naturellement, le cœur humain n'est pas reconnaissant. Naturellement, le cœur humain est ingrat. Maintenant, comme toute autre caractéristique de Jésus, seul l'Esprit Saint peut produire ça dans ton cœur. On ne peut pas y arriver en se forçant, ce n'est pas en cherchant à se conformer à un modèle par nos efforts. Cette forme de reconnaissance forcée, ça n'a rien à voir avec la reconnaissance qui jaillit du cœur, qui est poussé par le Saint-Esprit. Oui, ça prend ta collaboration. Oui, tu dois le désirer, mais tu dois demander au Saint-Esprit de faire de toi une personne remplie de reconnaissance. Amen. Afin de répandre la bonne odeur de Christ autour de toi. Pour la durée de cette série, j'ai un défi à vous proposer qu'on pourrait relever ensemble. Ce que j'aimerais, c'est que te proposer, c'est qu'à la fin de chaque journée, tu prends une plume, tu prends une feuille, puis tu écris trois choses pour lesquelles tu es reconnaissant envers Dieu. Que ce soit physique, ça peut être la crème glacée, ça peut être émotionnel, je suis bien dans ma relation avec mon conjoint, ma conjointe, mes enfants. Ça peut être spirituel, la joie que tu fais habiter dans mon cœur, Seigneur, la paix. Peu importe, physique, émotionnel, spirituel, peu importe le beau coucher du soleil, les belles couleurs, peu importe. Trouve trois choses à la fin de chaque journée, écris-les, et ça va t'habituer à voir les bontés. Il y en a bien plus que trois. Il y en a bien plus que trois, mais commence avec trois. Mon épouse Lorraine, depuis des années, écrit dans son journal à la fin de journée cinq choses pour lesquelles elle est reconnaissante à tous les jours. Elle fait ça depuis des années. Puis ça a fait d'elle une personne reconnaissante. Fait que la reconnaissance glorifie Dieu, honore Dieu et devrait donc remplir la vie de ses enfants. Car elle constitue la réponse sincère d'un cœur touché par sa bonté. Prions. Père céleste, souverain créateur du ciel et de la terre, on veut se courber devant toi ce matin, avec révérence, Père, car tu as tout créé, le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y meut, les lois invisibles et immuables de la nature. Et on veut s'arrêter ce matin et te dire merci. Non pas à un univers impersonnel, mais à un Dieu créateur de l'univers. On voit tes caractéristiques dans la nature. Ton intelligence, ta puissance, cette beauté, cette complexité. On voit ta bonté, Seigneur Dieu, dans nos vies, de toutes sortes de manières. D'avoir envoyé ton Fils Jésus pour nous démontrer qui tu es. Et pour prendre sur lui toutes nos fautes, toutes mes fautes. Et Seigneur, combien de bonté tu déverses sur nous, tes enfants, qui avons cru en Jésus. Tu nous combles de bonté. Tu nous as donné une éternelle source de réconfort et une bonne espérance, entre autres. Tu remplis nos cœurs de ta paix, de ta joie. Seigneur, force est d'admettre que mon cœur est ingrat. Notre cœur est ingrat, endurci. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-moi. Et on veut s'engager à ce que tu nous transformes pour qu'on ressemble à Jésus, pour qui tout était une grâce de ta main, qui nous a modelé cet esprit de reconnaissance. Oui, Seigneur, transforme cette Église en une Église reconnaissante. Chasse toute ingratitude, chasse toute murmure, toute critique, toute plainte. Non pas qu'on ne peut pas s'exprimer envers toi, Seigneur, on le voit. On a le droit de s'exprimer envers toi, mais tu veux nous amener plus loin. Alors, Seigneur, on s'engage ce matin à te laisser nous transformer. Fais cette œuvre en nous par ton Esprit Saint, on te prie, au nom de Jésus. Amen. Si tu as besoin de prière ce matin, pour une raison quelconque,